Amen. Est-ce que tu peux acclamer très bien le Seigneur? Acclame bien Jésus. Et pendant que tu l'acclames, nous sommes debout. Nous allons honorer la parole de Dieu. Nous allons lire quelques portions des Écritures. La première portion, je nous propose Josué 3, du 10e au 8e verset. La deuxième portion, je nous propose aussi Josué 5, du 5e au 9e verset. Et notre troisième portion, nous allons tirer ça dans le livre de Job 33, 14 à 20. Je conduis la lecture au nom de Jésus. Josué 3, à partir du 10e verset, la Bible déclare « Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du milieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'approchez pas, elle vous montrera le chemin que vous devez suivre. Car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Jésus dit au peuple, sanctifiez-vous car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et Jésus dit aux sacrificateurs, portez l'arche de l'Alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'Alliance et ils marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Le verset 8, la Bible dit, tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'Alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans les Jourdains. Josué 5, à partir du 5e verset, la Bible déclare, tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis, mais tout le peuple né dans les déserts pendant la route après la sortie d'Égypte n'avait point été circoncis. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans les déserts jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'ils avaient juré à leur père de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place, et Josué les circoncit, car ils étaient incirconcis, parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte, et ce lieu fut appelé du nom de Gulgal jusqu'à ce jour. » Job 33, à partir du 14e verset, la Bible déclare, « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups de glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche, quand une lutte continue vient agiter ses os. Alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis, acclamons la parole de Dieu. » Nous allons reprendre place, merci. Nous sommes en train de développer un thème depuis 2 semaines. Ça a commencé avec le révérend Isaac, et moi j'ai commencé depuis le lundi. Et hier on a eu un empêchement, et il y a un frère qui était venu et il vous a parlé de la part de Dieu. Nous sommes en train de parler d'un thème, le pouvoir de la prière à la lumière du parcours des enfants d'Israël dans les déserts. C'est depuis le lundi qu'on a commencé un sous-thème. Ça veut dire que je veux continuer le sous-thème de lundi. Et si par la grâce de Dieu, je serai en train d'achever cela, nous serons en train d'aborder notre sous-thème d'aujourd'hui. Comment écouter Dieu pour recevoir ses instructions? Comment écouter Dieu pour recevoir ses instructions? Le lundi, j'étais en train de nous montrer que la volonté de Dieu, c'est que quand il nous parle, que nous puissions l'écouter et ne pas se borner seulement à entendre sa voix, mais arriver à la dimension de comprendre ce qu'il veut nous dire, de saisir la pensée de ce qu'il veut nous dire. Vous savez, à chaque fois que Dieu communique une pensée, des fois, nous les humains, nous pensons faire ce que Dieu veut. Pourtant, nous n'accomplissons pas réellement ce qu'il voulait que nous puissions faire. C'est pourquoi vous serez en train de comprendre avec la loi de Moïse. Lorsque Jésus-Christ était venu, il a dit, Moïse a dit, mais moi je vous dis. Ça veut dire que quand Moïse avait parlé, les enfants d'Israël avaient écouté, mais pas comme Dieu le voulait réellement. Par exemple, je donne un exemple. Moïse a dit, vous ne commettrez point d'adultère. Et Jésus est venu, il a dit, Moïse a dit, vous ne commettrez point d'adultère. Si vous voyez une femme et que vous cherchez à la convoiter, vous avez déjà commis l'adultère avec elle dans votre cœur. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que simplement quand Dieu avait communiqué aux enfants d'Israël, la pensée, ce que Dieu voulait que les enfants d'Israël saisissent, c'était la pensée originelle. En d'autres termes, quand Dieu nous communique quelque chose, il y a un esprit qui accompagne cela. Et ce que Dieu veut dans notre vie, c'est que nous puissions saisir l'esprit qui est derrière tout ce qu'il est en train de nous dire. Bwanayesu asifiwesan. Et nous étions en train de nous enseigner plusieurs manières ou plusieurs façons dont Dieu parle, à part la voix audible. Mais malheureusement, nous, enfants de Dieu, nous attendons un Dieu tellement spectaculaire. Nous attendons un jour être au lit ou en train de prier et puis écouter un Dieu en train de nous parler dans le plafond à une voix très rauque. Mon fils, ma fille, tu as longtemps prié. Voici ton mari. Dieu ne viendra pas toujours comme ça. Bwanayesu asifiwesan. Et depuis ce jour-là, on était en train de voir les manières dont Dieu nous parle. Et la première manière que nous avons dit ce jour-là, c'était les songes. Et nous avons dit que Dieu nous parle beaucoup par les songes. Mais le problème avec les enfants de Dieu, c'est que même quand Dieu est en train de nous parler, nous ne croyons pas que c'est Dieu qui est en train de nous communiquer sa pensée. Et cela est dû par le fait que nous avons la confusion entre le rêve et les songes. Des fois, c'est les songes, nous pensons que c'est le rêve. Et des fois, c'est le rêve, nous pensons que c'est les songes. Et aujourd'hui, je vois les gens se faire délivrer parce qu'ils rêvent en train de manger la nuit. Pourtant, ils sont dormis affamés. La Bible dit que la personne qui est affamée, il rêve en train de manger. En d'autres termes, lorsque tu commences à confondre les deux, tu finiras par avoir une totale confusion et tu diras certainement, ce n'est pas Dieu qui me parle. Mais depuis le lundi, on était en train de voir comment détecter un songe qui vient de Dieu. Et nous avons dit, bibliquement parlant, que le songe qui vient de Dieu vient avec une forte conviction à l'éveil. En d'autres termes, quand tu te réveilles et que tu as reçu quelque chose qui vient de Dieu, cela va s'accompagner avec une forte conviction. Et cette forte conviction peut prendre un temps. Ça peut prendre 5 minutes, ça peut prendre 10 minutes, ça peut prendre 3 jours, ça dépend. Et la deuxième chose, nous étions en train de dire que le rêve qui vient de Dieu, c'est un rêve qui peut se répéter plusieurs fois. Lorsque tu vois un rêve répétitif comme Pharaon, ça veut dire simplement que Dieu est en train de te parler, mais jusque-là, tu n'as pas encore compris. J'aimerais donner à quelqu'un quelque chose, j'aimerais nous dire quelque chose. Une leçon mal apprise c'est chez Dieu, c'est une leçon reprise. En d'autres termes, aussi longtemps que tu n'écouteras pas ce que Dieu est en train de te dire, il répétera. Et notre Dieu, c'est un Dieu éternel, hein? Donc il ne sera pas pressé, il répétera toujours ce que tu veux entendre. Et c'est ce que les enfants d'Israël ont vécu dans le désert. Dieu voulait que ça soit un peuple saint, un peuple acquis, mais ils ne l'ont pas compris. Et Dieu a pris 40 ans. 40 bonnes années, en train de les apprendre ce qu'ils doivent réellement être. Et nous étions en train de dire que les songes qui viennent de Dieu est souvent accompagné des sentiments. Ça peut être accompagné de la joie, ça peut être accompagné de la tristesse, ça peut être accompagné de troubles, comme avec Pharaon dans Genèse 41, verset 8. Une autre chose par rapport à un rêve qui vient de Dieu, c'est que c'est un rêve qui est souvent continuel. C'est continu. En d'autres termes, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire, ça m'arrive souvent, je sais que ça t'arrive aussi. Des fois, je peux dormir, je suis en train de rêver quelque chose. Je m'éveille, je peux aller aux toilettes, je peux peut-être prendre le temps de prière, mais quand je reviens dormir, les rêves continuent. En d'autres termes, ce qui vient de Dieu, souvent, ça continue après le veille. Et une autre chose par rapport aux rêves qui viennent de Dieu, c'est que les rêves qui viennent de Dieu sont souvent imagés. mais viens avec un sens que toi seul tu peux comprendre. Vous vous imaginez, Pharaon, il ne sait rien de ce qu'il a vu. C'était vraiment imagé. Et même prenons Pharaon, il a vu et il comprenait, il avait la vision, il s'était imagé. Et il a appelé des magiciens pour l'expliquer. Et quand les magiciens l'expliquaient, ils comprenaient que c'était faux. Pourtant, c'était imagé. C'est ça la chose avec Dieu. En d'autres termes, quand un rêve vient de Dieu, ça peut être imagé. Mais Dieu garde l'interprétation au fond de toi. Et quand l'interprétation qui est conforme à la pensée de Dieu viendra, tu le sauras. En d'autres termes, tu peux avoir des rêves qui sont imagés. Mais quand la personne commence à t'expliquer, s'il tu vas où tu peux quoi, ni d'engagne. Même si moi, je ne comprends pas, mais ce que tu dis là, ça ne marche pas. Et ce jour-là, les pharaons, quand Joseph l'a expliqué, il a dit, où trouverons-nous un homme comme Joseph en Égypte? Mais Pharaon, c'était imagé, oui, c'était imagé, mais l'essence était dans son esprit. La deuxième manière dont Dieu nous parle, c'est par les signes. C'est par les signes. Et la plupart des fois, quand Dieu nous parle par des signes, nous nous disons, non, c'est par hasard. Ma sœur, tu es en train de prier Dieu si cet homme, c'est la volonté de Dieu. Dieu t'a déjà donné plusieurs signes. Tu l'as déjà vu en train de prendre l'alcool. Tu veux quel signe, papa? Tu l'as déjà vu être infidèle dans les fiançailles. Et dire à quelqu'un, lorsqu'un homme est infidèle dans les fiançailles, ça veut dire qu'il sera polygame dans le mariage. Donc, il ne t'a même pas vu. Il commence à devenir infidèle. Alors, quand une chose que j'aimerais nous dire aujourd'hui, c'est que Dieu, il nous parle par des signes. Et les signes de Dieu ne trompent pas. Les signes de Dieu ne trompent pas. Et parmi les signes que Dieu nous donne, il y a plusieurs manières dont Dieu nous donne des signes. Ça peut être un signe physique. Juges 6, le verset 36 jusqu'au verset 40. La Bible est en train de parler de Gédéon, comment il a demandé un signe à Dieu et Dieu lui a montré ses signes. Mais moi, j'aimerais dire à un chrétien mature que les signes, c'est souvent une preuve d'immaturité spirituelle. Car la Bible dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. La plupart des fois, Dieu peut nous donner des signes physiques. Et ces signes physiques, nous pouvons le demander à Dieu et Dieu nous le montre. Mais il faut vraiment faire attention avec les signes physiques, car le diable sait vraiment imiter les signes physiques. La Bible dit que l'ange des ténèbres, il peut se transformer, il peut se déguiser en ange de lumière. Un jour, un pasteur, un homme de Dieu, quand je faisais la théologie, c'est notre professeur qui me l'avait dit. Cet homme de Dieu était allé à la montagne pour demander à Dieu une femme. Et il disait à Dieu, Seigneur, j'aimerais qu'elle puisse avoir des tailles compliquées, qu'elle puisse être brune. Eh, les filles brunes. L'homme de Dieu demandait une femme brune. Et il a demandé à Dieu un signe. Il a dit, Seigneur, quand je vais descendre de cette montagne, que je puisse rencontrer cette femme à l'église, sur le pilier de l'église, qu'elle se tienne là, alors je saurai que c'est toi. Et maintenant, l'homme de Dieu, quand il est descendu de la montagne, il a rencontré textuellement la femme qu'il était en train de chercher. Avec détail, la femme brune est sur le pilier qu'il a dit à Dieu dans la prière. Mais malheureusement, c'était un signe trompeur. Et l'homme, quand il commençait à fiancer cette fille, l'intercesseur venait et disait, Dieu nous montre que c'est une sorcière. Anamia, on a les chaka mungwei. Les hommes de Dieu, compliqués. Et maintenant, l'homme de Dieu s'était marié enfin avec cette femme. Mais cette femme était sorcière. Et quand elle était sorcière, lorsqu'elle s'était mariée, les gens commençaient à diminuer à l'église jusqu'à ce que cet homme de Dieu a fini par fermer l'église. J'aimerais dire à quelqu'un ceci, ne sois pas esclave des signes. Ne sois pas esclave des signes. Pourquoi? Parce que le diable, il est spécialiste à imiter les signes. Deuxième forme de signe, à part des signes physiques, ça peut être aussi des circonstances. Dieu peut utiliser des circonstances pour nous parler. Romains 8, le verset 28, la Bible déclare, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » J'aimerais dire à quelqu'un ceci, les circonstances dans lesquelles tu es en train de passer, souvent, c'est le langage de Dieu. C'est Dieu qui est en train de te parler. Mais le problème, tu penses que c'est le diable qui est en train de te combattre. La plupart des fois, ce n'est pas le diable. C'est Dieu qui est en train de te faire passer par ces circonstances pour que tu comprennes ce qu'il veut te dire. Les circonstances. Un autre signe que Dieu peut utiliser, C'est un signe qui est permanent, mais les enfants de Dieu ne savent pas que c'est un signe qui vient de Dieu. Et ce signe-là, c'est un signe pendant que tu es en train de prier. Des fois, nous prions et nous sentons que nous devons continuer à prier. Ça, c'est aussi un langage de Dieu. La plupart des fois, nous prions et quand tu es en train de prier, tu sens comme si tu dois rester là-bas en train de prier. Mon frère, ne coupe pas ces instants. Continue à prier. Je me souviens, j'ai un petit frère et il prenait souvent le bus le matin quand il allait à l'école. Et un jour, il était en train de prier et il priait. Et il faisait les minutes qu'il devait faire dans la présence de Dieu. Mais il se sentait resté dans la présence de Dieu. Il est resté dans la présence de Dieu. Il a prié. Et après, il est sorti et il a rencontré les bus qui le prenaient toujours pour aller à l'école, étaient déjà partis. Et il a pris le bus qui suivait juste l'autre bus. Et quand ils sont arrivés à Instigo, il y a eu un accident. Ses collègues étaient là-dedans. Bakavunji Kamigul. Mais lui, il était dans le bus qui venait juste après. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. À chaque fois que Dieu te retient dans la prière, c'est que Dieu est en train de te parler. Ne combat pas cela. Ça ne vient pas du diable, ça vient de Dieu. Des fois, Dieu veut que tu puisses prier. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. À chaque fois que tu es en train de prier, quand les larmes viennent, papa, pleure bien. Quand tu sens que Dieu est en train de te pousser à dormir par terre, ou si on a laissé nos icotes, on a coché Ersan, apana, ouais, là, la quoi, chini, a ou joué bien, mon gueule, on a fait un maïcha yako. Quand la Bible dit que nous ne savons pas prier, c'est l'apôtre Paul qui dit. L'apôtre Paul ne dit pas que vous ne savez pas prier. L'apôtre, pas toi, l'apôtre Paul. Il est en train de dire, nous ne savons pas prier. Nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. Mais l'Esprit intercède à notre faveur par des soupirs inexprimables. Et parmi les soupirs inexprimables, il y a le fait que l'Esprit nous retient dans la présence de Dieu pour prier. Il y a le fait que l'Esprit peut nous pousser, peut-être à ne pas parler dans la présence de Dieu, mais à pleurer. Ou c'est quoi cette affaire, mouma ombi, omba? Comme moi, la kwambia, lia, papa, lia, ça, moutoto. Un jour, ma femme, un jour, je vais aller au boulot, parce que moi, ça m'arrive des fois. Niko moudouche, niko nanan, ni nanzao, même lorsqu'il y a présence, c'est à moi, mi nanzangu, j'y li li. Mi na fikachini, mi na piga, ma goti, mi na lia, bi bien, moi, n'y a moucham, n'angale, ou t'y pan, li li a nin. Parce que ma femme sait que j'aime beaucoup mon père. Akakamata quoi téléphone, c'est iko sakuko mauvaise. Anangali a pas de mauvaises nouvelles. Et quand je me suis levé, c'est tu m'as fait tellement peine quand bien j'étais dans la présence de mon père. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. S'il y a un endroit où tu dois devenir toujours un enfant, c'est la présence de Dieu. S'il y a un endroit où tu dois enlever tes grades, tu dois enlever tes estimes, c'est dans la présence de Dieu. S'il y a un endroit où tu ne dois pas considérer tes maquillages ou ta manière de te maquiller ou de t'habiller, c'est dans la présence de Dieu. Nous prions et nous pensons contre Dieu. Alléluia. Dieu n'est pas convaincu par ce que nous disons. Il est convaincu quand nous faisons ce que lui, il veut que nous puissions faire. Un jour, ce jour-là, Josué a dit que le soleil s'arrête sur Gabaon. Eh, mais Josué, tu ne connais pas la géographie. C'est la géographie, c'est quoi ça? Je ne sais pas. C'est la chose-là. Mais c'est la terre qui tourne autour du soleil. Mais toi, tu dis que c'est le soleil qui doit s'arrêter. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Dieu ne suit pas tes chameaux, il suit tes intentions. Même quand tu dis que c'est le soleil, alors la terre va s'arrêter. Parce que notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui est esclave de nos vocabulaires, mais il est un Dieu qui écoute les fonds de nos cœurs. C'est pourquoi quand tu es en train de prier, même tes larmes peuvent mieux parler que ton français. Le plus grand problème, c'est que nous pensons que Dieu écoute les français. Non, non, Dieu, il écoute tout ça, mais c'est ce qui accompagne le français que Dieu écoute. Et ce qui accompagne ces français peut être de larmes, peut être de cris. Moi, je me dis, un jour, peut-être, elle a prié. Elle disait à Dieu, Seigneur, tu vois, j'aimerais avoir des jumeaux avec des cheveux blonds. Que mes enfants soient un peu plus gros que les enfants de Pénina. J'aimerais que mes enfants, oh Seigneur, qu'ils parlent de très bons français. Peut-être c'est comme ça qu'elle priait. Mais un jour, la Bible dit, elle était comme ivre. Et ce jour-là, Dieu l'a exaucée. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Lorsque Dieu te retient, reste là. Lorsque Dieu te dit, reste, prie, continue à prier. C'est un langage de Dieu. Un jour, j'étais en train de prier dans mon intimité avec Dieu. Et ce jour-là, j'étais encore célibataire, je n'étais pas encore marié. J'avais une petite chambre, c'est là où je dormais. Et j'avais rendu ma chambre une chambre de prière parce que je priais souvent là-bas. Et un jour, j'étais dans ma chambre en train de prier et j'ai senti le Seigneur me retenir. Et ce jour-là, j'ai prié pendant 8 heures de temps. J'ai prié, je voulais quitter, j'étais retenu là-bas. Pourquoi je le faisais? Parce que chaque 18 heures, j'allais évangéliser les gens en route.
Et ce jour-là, j'étais tellement retenu jusqu'à 18h. Et je me suis dit, OK, je vais quitter. Je vais maintenant partir. Et puis, je l'ai arrêté. Je suis allé pour évangéliser. Et quand je suis allé, je me suis rencontré avec quelqu'un qui est dans une doctrine très compliquée. C'était une personne qui maîtrise mieux le verset que moi. Et il m'expliquait des choses compliquées. Mais ce jour-là, le fait que j'étais dans la présence de Dieu, le Seigneur avait gardé ma foi. La plupart des fois, tu tombes dans des tentations. C'est simplement parce qu'un jour, Dieu voulait que tu restes encore plus dans sa présence. Et ce jour-là, Pierre est en train de dormir à Gethsemane. Jésus vient, « Pierre, tu n'as même pas pu veiller avec moi une heure. » Et il lui dit, « Pierre, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. » Certainement, Jésus voyait comment Pierre devait couper l'oreille de quelqu'un après juste quelques minutes. Et il dit, « Pierre, prie. » J'aimerais dire à quelqu'un, à chaque fois que Dieu te retient dans sa présence, c'est pour un but précis. Bwanayesu asifiwe sana. Un autre signe de la réponse de Dieu, les sentiments que nous pouvons recevoir dans la présence de Dieu. La plupart des fois, nous disons à Dieu, « Seigneur, dois-je aller travailler ? Dois-je aller travailler ?» Nous attendons une voix audible. Mais en réalité, Dieu te répond par une paix profonde. Alléluia ! Tu es en train de prier, « Seigneur, je fais ce travail. » Mais tu sens au fond de toi une paix profonde. Et quand tu ressens cela, tu as besoin que Dieu te dise quoi ? « Papa, lève-toi et marche. » Dieu t'a déjà répondu. Tu es dans une relation, tu dis, « Seigneur, dois-je continuer ou dois-je arrêter ?» Tu sens la paix, tu sens la joie en toi. « Maman, continue, Dieu est avec toi. » Mais d'autres fois, quand tu es dans des relations compliquées où Dieu n'est pas là, même quand tu pries, « Seigneur Dieu, on a quoi ma trouble, on dirait quoi ma paix pour ?» Mungu eski ni kweli ni wea iko wei baba. Mina ugo papa baba. Mungu sasha kongele achana nele relation papa. J'aimerais dire à quelqu'un ceci, Dieu nous parle, nous sommes enfants de Dieu. Des fois tu veux aller en voyage papa, tu veux aller en voyage maman. Unasikia muroyako yako ausikie le voyage. Pourquoi tu veux que Dieu te parle comment? Et c'est pourquoi tu verras que la plupart des personnes font des accidents. Et puis on commence à témoigner. Pourtant, il disait, il veut rester. Il disait qu'il se sentait passé. Il le parlait, mais il ne pouvait pas comprendre le langage de Dieu. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu ressens quelque chose quand tu es en train de prier, ne néglige pas ces sentiments-là. Ne néglige pas ces sentiments. Je me souviens, j'étais dans une relation. Ah, les relations qui traînent, c'est compliqué. Dans cette relation-là, j'ai prié, Seigneur. Ni peto te baba, ni patie mali baba, onekana leo basi, leo. Mais mungu anafunga mali. On a compris que quand tu es dans une relation, tout ne marche pas. Mais tu attends quoi, maman? Tu attends quoi, papa? Des fois, c'est comme ça. C'est Dieu qui est en train de te parler, mais tu ne sais pas comprendre que c'est Dieu. Et ce jour-là, au lieu de briser une relation à une année, j'ai entendu 5 bonnes années de ma vie pour briser et pour comprendre qu'en réalité, Dieu n'était pas dedans. Et quand j'ai pris ma fiancée, qui est aujourd'hui ma femme, ça n'a même pas pris une année, je l'ai doté. Quand Dieu est avec toi, des fois, il ouvre certaines portes et tu comprends que Dieu est avec toi. Et la plupart des fois, il y a des portes qui se ferment. Et tu ne sais pas comprendre que c'est Dieu qui est en train de te parler. Pourtant, c'est Dieu qui est en train de te parler. Et aujourd'hui, il m'a été donné de parler de la conquête de la terre promise. La conquête de la terre promise. Lorsque j'étais en train de lire la parole de Dieu et lorsque j'étudie la parole de Dieu, je trouve beaucoup de secrets. Dieu garde pour des gens qui sont appelés à jouir de ses promesses. Les enfants d'Israël, c'était des prix Abraham, que Dieu leur avait promis la terre promise, que Dieu leur avait promis d'être le peuple qui va habiter à Canaan. C'était des prix Abraham et puis il y a eu beaucoup d'années se sont passées, se sont écoulées. Et il y a eu un peuple, une génération qui devait maintenant hériter la terre de Canaan. Et je me dis, pour être beaucoup plus logique et vrai dans cette prédication, j'aimerais contextualiser ce message. J'aimerais que ce message soit ton message. Peut-être toi, ça ne sera pas à Canaan. Peut-être ce n'est pas ça ta terre promise. Comme moi, ce n'est pas ma terre promise. Je ne suis pas juif. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons chacun des promesses de Dieu dans notre vie. Et j'aimerais dire à quelqu'un, la Bible est en train de dire dans le livre de 1 Corinthiens, la Bible est en train de dire que ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. En d'autres termes, les mêmes conditions que Dieu avait données pour qu'ils puissent hériter Canaan, c'est les mêmes conditions que Dieu nous donne aussi pour hériter nos promesses. J'aimerais poser une question. Qui a la promesse de Dieu dans sa vie? On peut faire juste ça. Waouh, vous êtes nombreux. Et pour toi qui n'as pas de promesses de Dieu dans ta vie, j'aimerais te dire, Dieu t'a promis au moins le ciel. Donc même pour aller au ciel, tu dois avoir ces conditions ici. Et j'en ai trouvé sept. J'en ai trouvé sept conditions. Je ne vais pas appeler ça des conditions, ou j'aimerais appeler ça quelque chose d'un peu plus doux. Parce que quand on parle des conditions, on voit des lois, on voit beaucoup de choses. Mais j'aimerais dire, j'aimerais parler plus de préalable. Parce que ce que nous étions en train de lire dans les livres de Corinthiens, la Bible est en train de dire ceci, que cela a été écrit pour notre instruction. Et la Bible dit que si nous aussi nous nous retirons, nous allons subir le même sort. Et parmi les conditions que moi j'ai trouvées, ou les préalables que j'ai trouvés pour que les enfants d'Israël rentrent dans la terre promise, la première chose, c'est mettre Dieu en avant de tout. Tu veux vivre les promesses de Dieu dans ta vie, permets que Dieu soit alpha dans ce que tu es en train de faire. J'aimerais te dire, Dieu ne sera jamais oméga pour une chose où il n'a pas été alpha. Et encore moins, il ne sera pas Emmanuel pour une chose à laquelle il n'a pas été alpha. Les enfants d'Israël, la Bible dit, Josué 3, le verset 4, « Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. » C'est que cela veut dire quoi? Les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont commencé à rentrer dans la terre promise, Dieu leur a donné une instruction que l'arche de l'Alliance devait les précéder de 2000 coudées. En d'autres termes, celui qui voudra attaquer Israël, il devra d'abord s'attaquer à l'arche de l'Alliance. Or, l'arche de l'Alliance était la présence de Dieu dans la vie des enfants d'Israël. J'aimerais dire à quelqu'un ceci, tu veux protéger tes promesses, tu ne protégeras pas tes promesses par des chutes foissiales spirituelles, non. C'est juste de mettre Dieu au devant de tes promesses. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, mets Dieu en avant de tout. Tu es dans une relation amoureuse, Dieu t'a promis le mariage, alors mets Dieu dans cette relation. Il est temps que les jeunes puissent commencer des relations où quand vous chattez, vous ressentez la présence de Dieu. Même quand vous vous appelez au téléphone, même quand vous allez au restaurant, vous ressentez que Dieu est avec vous. J'aimerais dire à quelqu'un ceci, mets Dieu en avant de tout. Mets Dieu devant toi. Marche avec Dieu. C'est la première chose, la première condition. Même pour entrer au ciel, Dieu doit être ta priorité. La deuxième chose, pour aller plus vite, qui a permis aux enfants d'Israël de rentrer dans la terre promise, c'est se laisser orienter par Dieu. C'est se laisser orienter par Dieu. C'est vrai, les enfants d'Israël, ils ont laissé passer l'arche de l'Alliance au devant d'eux. Mais une chose que Josué leur a dit, vous allez suivre, elle vous conduira, elle vous orientera, elle vous montrera le chemin. Car c'est un pays que vous ne connaissez pas, c'est un chemin que vous n'avez jamais emprunté. J'aimerais dire à quelqu'un, avant que Dieu ne te donne ta promesse, il était d'abord dans ta promesse et puis il est venu vers toi. Donc il est le mieux placé pour savoir où se trouve ta promesse. Et c'est ce que Dieu était en train de dire aux enfants d'Israël. Vous êtes nouveaux, vous ne connaissez pas les chemins de la terre promise. Vous ne connaissez pas les chemins, alors suivez l'arche. La plupart des enfants de Dieu, ils mettent Dieu en avant, mais ils lui tournent les dos après un temps. La deuxième chose, comme j'étais en train de le dire, c'est se laisser orienter par Dieu. La troisième chose à savoir, une leçon que j'ai tirée chez les enfants d'Israël, c'est une leçon très importante. C'est que toute bataille ne se gagne pas au champ de bataille. Il y a des batailles qui se gagnent selon le modèle de Dieu. Vous savez, quand ils étaient dans le désert, Amalek vient, ils pouvaient les combattre. Mais leur premier combat après le Jourdain, c'était le cri de joie. Et là, Josué pouvait dire à Dieu, Seigneur, tu sais, selon la déontologie militaire, il faut prendre les armes et combattre Jéricho. Selon les normes de combat terrestre, il faut prendre des lances et des javelots. Mais Dieu leur a dit, non, ce n'est pas ça. Au-delà du Jourdain, ce n'est pas ça. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Lorsque tu veux entrer dans ta promesse, laisse Dieu te donner les stratégies d'entrer dans ta promesse. Car si tu utilises tes stratégies, tu risqueras de tomber même dans ta promesse. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Il est temps de te laisser orienter par Dieu. Il est temps de comprendre comment Dieu fonctionne avec toi. Il est temps, enfant de Dieu, de comprendre que si tel a réussi dans A, tu n'es pas forcément poussé à réussir dans A comme lui. Dieu peut te passer dans B ou dans C. Dieu, il est Dieu et il est multisystème. Ça, c'est la réalité que les enfants d'Israël étaient en train de vivre. Quatrième chose, que Dieu voulait apprendre aux enfants d'Israël, ou disons, ils sont tombés dans ces pièges, mais aujourd'hui, ça doit nous servir d'exemple. N'aie jamais méprisé la guerre spirituelle. N'aie jamais méprisé la guerre spirituelle. Très important, enfants de Dieu. Écoutez, après que les enfants d'Israël ont terrassé Jéricho, il y a une petite ville qu'ils ont rencontrée, c'était Haï. Et ils ont dit, ah, on n'a pas besoin de faire souffrir tout le peuple. Prenez juste 3000 hommes et tout ira bien. On va les battre. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Les gens qui méprisent la guerre spirituelle, ce sont souvent les gens qui tombent pour les petites choses. C'est ce que nous étions en train de lire le lundi. Que celui qui est debout fasse attention de ne pas tomber. Pourquoi? Parce que la plupart des fois, les batailles qui semblent être très grandes, ce sont des batailles où nous sortons facilement vainqueurs. Mais des petites batailles, ce sont souvent des batailles où beaucoup d'enfants de Dieu ne parviennent pas à avancer avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils méprisent cela. Écoutez ce que la Bible dit dans 1 Jean 5, le verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et les malins ne les touchent pas. Quand je parle de mépriser les batailles, ça veut dire que tu peux facilement accepter une tâche dans ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un ceci, lorsque tu acceptes une tâche spirituelle dans ta vie, le diable peut te toucher n'importe quand. Et c'est ce qui était le cas avec les enfants d'Israël. Ils ont méprisé Haï et ils n'ont pas demandé d'orientation venant de Dieu. Et ils sont allés, on les a décimés. Et quand ils sont rentrés, ils se sont rendus compte qu'ils ont péché contre Dieu. La cinquième chose, apprendre des erreurs passées. Très important, apprendre des erreurs passées. Qu'est-ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël? Moïse, il veut conquérir la terre promise et il envoie 12 espions. Et les 12 espions sont allés à Canaan et ils ont vu des géants, ils ont vu des fils d'Anak. Et ils sont revenus, ils ont dit à Moïse, nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles. On ne les a même pas dit. Donc, c'est eux qui ont découvert et ils ont trouvé qu'ils étaient comme des sauterelles. Et il y en a eu deux seulement qui ont témoigné. Ils ont dit, non, Dieu est avec nous. Nous pouvons battre Canaan. Nous pouvons battre les Jébusiens. Nous pouvons le battre. Il n'y en avait que deux. Et maintenant, Josué, lorsque lui aussi, il fait envoyer des espions, il a dit, ah, je ne vais pas faire la même erreur que Moïse. Moi, je n'enverrai pas 12. Je vais envoyer seulement 2 personnes à Jéricho. Les 2 personnes sont venues avec des bons résultats. Et Dieu les a orientées et ils ont pu vaincre Jéricho. Écoutez, bien-aimé, j'aimerais te dire ceci. À chaque fois que tu as la promesse de Dieu, regarde la personne qui est à côté de toi, apprends de ses erreurs pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs. Ma sœur, tu as vu ton ami être engrossé. Tu as vu ton ami avoir le sida. Tu as vu toutes ces choses-là. Et toi, tu es dans une relation. Il faut apprendre de ses erreurs. Qu'est-ce qu'elle avait que moi, je ne dois pas faire? Il est très important pour nous, enfants de Dieu. Pour entrer dans nos promesses, il faut toujours se référer aux personnes qui avaient les mêmes promesses, mais qui ont échoué à faire des erreurs et apprendre de ces erreurs-là. La sixième chose que les enfants d'Israël ont fait, ils ont accepté que la manne s'arrête et qu'ils puissent travailler. Vous savez, nous les enfants de Dieu, nous avons un problème. Nous voulons rester toujours dans la présence de Dieu en train de demander les promesses de Dieu. Dieu nous promet. Il te dit, tu es chantre. Demain tu viens, Seigneur, j'aimerais avoir la précision par rapport à mon appel. Dieu te dit, tu es chantre. Après demain, après 10 ans, tu viens. Seigneur, j'aimerais avoir vraiment cette précision. Ça, c'est la manne que Dieu est en train de te donner. Mais si tu veux rentrer dans la promesse, si tu veux vivre la promesse, il faut accepter que cette manne-là s'arrête et que tu puisses entrer maintenant en action, que tu puisses entrer au travail. Mon frère qui est là, Dieu t'a promis d'aller dans le monde des business très loin. Arrête de venir encore prier Dieu. Dieu, dois-je entrer dans le business? Accepte que la manne s'arrête et que tu puisses désormais travailler. Et la Bible déclare, encore quand la manne s'arrête, ça s'arrête vite. La manne commençait à couler pendant 40 ans. Les jours où ils ont traversé les Jourdains, la manne s'est arrêtée par là. Bien-aimé, vous devez travailler. J'aimerais dire à un frère qui est ici, arrête d'être paresseux. Sois un travailleur. La plupart des fois, nous faisons beaucoup de freins dans des maisons de prière. C'est à cause, nous sommes des paresseux. Nous voulons la manne chaque jour. On est dans la couleur de 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 la couleur. Bien aimé, il est temps d'abandonner ces choses et de commencer à travailler maintenant pour l'élévation. Pourquoi? Parce que tu as inouliwa, moi unabi, mpaka utazeheka, unakufa ukiinuliwa tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Moi, on me disait que je serais riche, papa. On me disait, Emmanuel, tu seras un homme riche, fort riche. Nani ko tu parle, alléluia, Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci. Mais j'étais toujours là. Un jour, j'ai dit, bon, je dois travailler. Il faut que la manne s'arrête. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de prophétie pour travailler. Je connais déjà ce que Dieu a dit. La prophétie ne vient que confirmer ce que tu connais déjà. Donc, si j'ai déjà la confirmation, pourquoi chercher encore la prophétie? Que la prophétie reste dans le désert. C'est pour les gens qui traversent le désert. Mais pour moi qui veux la terre promise, je dois désormais travailler. Et quand ils se sont rendus dans la terre promise, ils se sont rendus que ce n'est pas un pays où coule le lait et le miel. Parce qu'il n'y avait pas le lait, il n'y avait pas le miel. Ils se sont dit, ok, donc le lait et le miel, ils ont cultivé, yo. Vous savez, quand Dieu parle de lait et de miel, c'est quoi? Je vais vous donner un mystère par rapport à ça. Le lait et le miel, ce sont les deux nourritures où tu n'as pas besoin de travailler pour manger. Amen. Quand tu veux prendre le lait, tu as besoin d'aller chez une vache, tu prends, tu bois, c'est tout. Le miel, tu vas chez l'abeille, tu prends, tu manges, c'est tout. En d'autres termes, tu n'as pas besoin de travailler. Mais quand ils se sont rendus là-bas, je dois cultiver ici. Ok, tu dois cultiver, papa. Dieu t'a dit, le lait et le miel, ça veut dire qu'il va faciliter ton travail. Et même Josué, avant d'entrer dans la terre promise, Dieu est en train de les rappeler plusieurs fois que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Ça veut dire, même dans le pays où coule le lait et le miel, tu as besoin d'entreprendre pour réussir. J'aimerais dire à quelqu'un ceci, arrête d'être un paresseux qui pense que l'église, c'est une association de paresseux. On te dit, tu vas aller de l'avant et tu ne travailles pas, tu penses aller de l'avant. Non, 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 non. Dieu bénit le travail de nos mains. Dieu bénit ce que nous faisons. C'est pourquoi il est temps de quitter les illusions. Il est temps de quitter la manne. La manne, il recevait ça chaque matin, il mangeait et puis après 40 ans. Dieu a arrêté totalement la manne. Parce que les enfants d'Israël devaient travailler. Tu veux entrer dans ta promesse? Sois un homme qui travaille. Sois un homme qui sait se battre dans la vie. Sois un homme qui sait se battre. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Quand Dieu a donné la prophétie à Samarie par la bouche d'Élisée, il a dit, demain à la même heure, vous recevrez le pain d'orge. Autant d'argent, je prends notre monnaie, à 1000 francs. Et puis les gens étaient là et il y a quelqu'un sur lequel s'appuyait le roi. Il a dit, pareille chose arrivera-t-il même si les églises des cieux étaient ouvertes? Et on lui a dit, toi tu ne mangeras pas. Mais écoutez, même Élisée n'était pas sorti, il était là. Mais pour que ça entre en action, il fallait 4 lépreux à la porte qui devaient entrer en action. Et leur pas qui était semblable au pas de faiblesse, Dieu a rendu ce pas comme des bruits de char. J'aimerais dire à quelqu'un, la promesse de Dieu t'accompagnera dans ce que tu es en train de faire. Même si tu fais des petites choses, Dieu y mettra l'excellence. Même si tu fais des petites choses, Dieu accompagnera ce succès. Et je prie au nom de Jésus, pour toi qui as accepté que la manne s'arrête dans ta vie, que Dieu te donne du succès au nom de Jésus. Même quand tu es vendeur de braise, que Dieu donne ta braise une qualité. Donc quand toi tu distribues, que les gens comprennent que ta braise amène même le réveil spirituel dans la maison. Quand on prend la bouillie sur ta braise, les gens parviennent à prier. Et c'est possible. C'est possible. Si une personne peut mettre des habits pour envoûter les gens, toi tu peux être un couturier de la gloire. Quand quelqu'un met l'habit sur toi, quand il met ton habit sur lui là, il sent qu'il aime Dieu. Alléluia. Moi, j'ai fait des farines de bouillie et aujourd'hui, nous sommes arrivés dans une dimension de faire des instantanés. Mais quand j'étais encore dans la farine native où on préparait la bouillie, il y a quelqu'un qui avait abandonné l'alcool à cause de la bouillie. Il avait pris la bouillie, il a senti... Il est temps que les enfants de Dieu commencent à faire des choses qui vont rendre gloire à Dieu. Si le diable peut envoûter les gens par la nourriture, toi, quand tu donnes à quelqu'un la nourriture, il aura des insomnies pour la prière. Donc, il ne parvient pas à dormir pour prier. Est-ce que tu peux acclamer très bien le roi des rois? Nous sommes debout dans la présence de Dieu, nous allons prier. Tu vas répéter cette prière après moi. Nous aurons beaucoup de temps de prière les vendredis nuit. Donc, les vendredis ne manquent pas à la veillée. Nous aurons des forts moments de prière. Nous allons prier. Vous savez, quand tu es en train de jeûner, il faut maximiser ton temps dans la prière. Donc, le vendredi, nous allons prier. Nous allons prier. Et je crois, et je suis convaincu que tes murs de Jéricho vont tomber. Je suis convaincu que la chose que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera dans le plus bref délai. Tu vas répéter cette prière après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je crois en ta parole. Je crois en mes promesses. Tu m'as promis beaucoup de choses. Et je crois que ça va se réaliser. Ainsi je déclare, tu seras le premier dans ma vie. Tu vas orienter ma vie. Tu vas orienter mes pas. Tu vas prendre par la main. Le ciel me sera favorable. Dans tout ce que je ferai, je déclare au nom de Jésus, tu ne m'abandonneras pas. Tu es avec moi. Comme tu as été avec Moïse, comme tu as été avec Josué, comme tu as été avec les apôtres, tu es avec moi et tu ne m'abandonneras pas. Je vivrai mes promesses et je témoignerai ton nom. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout le mirail de Jéricho qui s'élève contre mes promesses s'écrouleront, non pas par la force humaine, mais par l'intervention divine. Car il est écrit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi je déclare que mes promesses ne seront pas arrêtées, car j'ai un nom qui est au-dessus de tous les noms, un nom devant lequel tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Au nom de Jésus, que Dieu bénisse sa parole. Amen.